faut que je tienne le coup. Je t'encourage à fumer deux fois plus. Car fumer, c'est bon pour la santé. ça va pas être dedans. Mais voilà.
Getting to know you. Deux personnes, une conversation et zéro fil rouge.
On est en octobre, ça fait quoi? Deux semaines, trois semaines qu'on a repris l'université? Trois semaines?
Voilà, trois semaines, je dirais.
On a repris en même temps, j'ai l'impression, en plus. Oui. Sachant qu'on n'est pas dans les mêmes universités, mais qu'on est dans le même pays, donc c'est à peu près le même système. Et donc, je sais pas pour toi, mais moi, c'est la surcharge de travail un petit peu.
Alors, c'était un de mes sujets ce soir, oui, la surcharge de travail est totale.
Mmh.
J'ai à peu près un bouquin de 600 pages à lire chaque semaine.
Ok, j'ai
pour
aucune raison de me plaindre. J'ai aucune raison de
pour
me plaindre.
Un seul cours.
Je me casse. Salut. Au revoir. Un bouquin de 600 pages. Ça va pas.
Ouais, on a un bouquin, à peu près un bouquin de 600 pages à lire par semaine pour un seul de mes cours, et j'en suis trois.
D'accord.
Sachant pour les autres, j'ai aussi de la lecture.
Mmh.
Donc, ouais, disons qu'en gros, j'ai 600 pages de lecture à faire par semaine.
Ouais.
Et on en est qu'à trois semaines dans le programme. Je suis malade. Je sens déjà au bord du mental breakdown, à savoir que je me suis réveillée ce matin, j'ai juste fondu en larmes.
C'était le dernier épisode de Getting to Know You, merci de nous avoir suivis pendant près d'un an. On se retrouve dans nos podcasts respectifs, bonsoir, ciao. Non voilà, effectivement, c'est pas facile comme rentrée, c'est un peu différent pour moi, alors je vais te laisser continuer après, mais juste pour exposer un petit peu la différence de la situation. En ce qui me concerne, donc, c'est plus le mélange d'un petit peu tout à la fois, en fait, parce que j'ai cinq cours, pour certains, j'ai à faire des lectures, pour d'autres, j'ai à faire des exercices, pour d'autres, c'est des exercices en groupe, et il faut constituer les groupes à l'arrache, et il faut faire l'exercice le plus vite possible avec les consignes qui arrivent moins de 48 heures avant le rendu de l'exercice, donc tout va bien sur Terre. C'est également un oral à préparer pour un autre examen, enfin, c'est vraiment un petit peu de tout, c'est all over the place, comme l'aiment bien le dire les anglophones. Et puis d'autre part, j'ai Kawa à gérer, et sur Kawa on gère l'alpha de l'antenne, c'est-à-dire un mode de diffusion un petit peu expérimental, parce qu'on a envie d'avancer et de tester de nouvelles choses de ce côté-là. C'est de la recherche et développement, les amis. On a également un week-end en public qui arrive les 22 et 23 octobre. J'ai une émission spéciale en public qui arrive le 12 novembre. C'est vrai que ça, plus le reste, plus les articles. Donc, le fait est que la multiplicité, en gros, de tout le truc, fait que c'est compliqué. Et le très joli réglage en différents jours de la semaine a complètement explosé en vol au profit de « je vais faire ce qui est nécessaire au jour le jour ». Parce qu'il n'y a pas d'autre solution, et parce que les journées ont 24 heures, et parce que dormir moins de 7 heures par nuit, c'est déjà suffisamment peu, donc voilà, c'est aussi bête que ça.
Je connais ça.
Donc voilà, c'est difficile en ce moment, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter sur la question.
Alors ouais, moi j'ai ces cours, j'ai un cours merveilleux.
Ah!
Ironie. sarcasme.
Merde.
J'ai ce cours pour lequel on doit lire en gros donc ces bouquins chaque semaine.
Ouais.
Donc ça fait énormément de travail et sur l'étendue du cours on va avoir une douzaine de bouquins à lire.
Mm-hmm.
Et la blague, enfin l'examen pour ce cours, c'est qu'il nous envoie 48 heures à l'avance, 48 heures avant l'examen, il nous envoie deux œuvres. Le nom de deux œuvres parmi le truc sur lesquelles on sera interrogé, sur les 12 œuvres. Donc en gros, on doit lire 12 bouquins, dont un de putain de plus de 800 pages. et c'est d'une semaine à l'autre. Hein.
Oui,
du coup,
oui.
ils s'attendent à ce qu'on soit capable de lire 800 pages en une semaine.
Mmh.
Je sais pas, j'ai fait mon max, mais même pour lire seulement le bouquin de cette semaine, le bouquin que j'ai pour un autre cours qui fait 530 pages. C'était les liaisons dangereuses, j'ai eu du mal en une semaine. Donc,
faut rien faire d'autre à côté.
Voilà, c'est exactement ça. Donc maintenant, je ne fais plus rien d'autre. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai peu de sujets. je ne fais plus rien d'autre si ce n'est bosser pour l'université et me crever à faire ça.
Mm.
Et c'est assez, assez violent pour le niveau moral. Je t'avouerai que j'ai du mal à tenir.
Ceci dit, voilà, je suis pas dans la même situation que toi parce que là, c'est vraiment pour toi une charge de travail qui est énorme. et qui est difficilement conciliable avec beaucoup de choses d'autres. Là, c'est beaucoup plus une question d'arrangement et de carambolage entre les différentes responsabilités, et ça va s'arranger au fur et à mesure.
D'autant que moi, il faudrait que je trouve un sujet pour mon mémoire.
Oui,
c'est
une question que je vais me poser dans 6 mois. Voilà, mais c'est j'ai hâte là aussi.
C'est une question que je me pose depuis 2 ans, enfin un an et demi. Enfin non, 1 an. Et je n'ai toujours pas de réponse à ça.
Ceci dit, tu fais tellement de cours de méthodologie avant, en Sciences Po, en ce qui me concerne, que t'as déjà une, ça te force à déjà avoir une vague idée.
D'accord.
T'as déjà formulé X nombre de problématiques, donc au pire, tu pioches dans ce que t'as déjà fait pour les exercices auparavant. Au
ok,
pire.
Bon, bah t'as du bol, parce que moi, c'est la liberté totale, et c'est...
Et la liberté totale, c'est parfois
la
extrêmement
totale,
emmerdant.
Voilà, c'est parfois extrêmement emmerdant, ça doit juste toucher à la littérature anglaise, donc, mm-hmm. Enfin, anglophone. Donc ouais, c'est très très vague, et j'ai aucune idée de quel sujet de mémoire je pourrais avoir.
Étude sur la fantasy moderne et pourquoi est-ce que la pièce de théâtre Harry Potter est une grosse merde. Je pourrais écrire 300 pages dessus, voilà, au revoir.
Je ne l'ai pas lu.
C'est une merde.
De quoi ça parle?
C'est une merde. Alors de quoi parle la pièce? Oh mon dieu. Alors ça n'a pas été directement écrit par J.K. Rowling, de ce que j'en comprends, ça a été écrit par une personne, puis il y a eu le stempel d'approval par deux autres, dont J.K. Rowling.
D'accord.
Qui ont dit globalement c'est marketable. Le truc, je crois que c'est Jack Thorne, l'auteur. Le pitch, c'est tu vois la fin du 7e bouquin avec 17 ans plus tard.
Ouais.
Dans l'épilogue.
Ouais.
Ça reprend l'épilogue,
non.
Et puis ça étend sur l'épilogue. De la manière la plus importante. Alors je veux pas spoiler évidemment, même si honnêtement spoiler
si,
de merde.
Si, vas-y, spoil.
Alors attention, spoiler, si vous avez envie de lire, pourquoi diable, la pièce de théâtre dont je me souviens plus.
Cursed Child.
L'enfant maudit, oui, voilà, effectivement. Zappez maintenant. Scrobler dans le fichier, est-ce que vous entendiez une pause musicale, parce que ce sera probablement le moment où on passera à un autre sujet. Le problème de Cursed Child, c'est que c'est vraiment, ça ne respecte pas le matériau de base, en fait, tout en donnant l'impression que ça le fait. Je m'explique.
C'est une mauvaise fanfic, quoi.
C'est une mauvaise fanfic. Non, mais exactement. C'est une mauvaise fanfic, dans le sens où pourquoi est-ce que la vieille qui distribue les sucreries dans le Poudlard Express est également berserk quand elle essaie de sauter par-dessus de sauter du train pour en échapper?
Quoi?
Oui, voilà, même question.
Non, mais c'est quoi l'histoire déjà?
L'histoire, c'est un des fils Potter et un des fils Malfoy qui deviennent super potes parce que les deux finissent à Serpentard. Parce que le fils Potter en question se sent un petit peu outcast et se sent un petit peu dans l'ombre de son père et se sent un petit peu mis de côté, pas bien dans sa peau, etc. Entend le père de Diggory, donc Amos Diggory, dire oh là là, mon fils est toujours mort, oui. Et vous n'avez toujours rien fait, et pareil, il y a encore des retourneurs de temps qui circulent malgré le fait que les retourneurs de temps ont été tous détruits au ministère de la magie. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose? Harry Potter répond non. Harry Potter, donc, est Aurore en chef. Voilà. Hermione est devenue ministre de la magie parce que.
Oh.
Pff, et Ron est devenu con. mais est-ce qu'il est réellement devenu? Le jury est toujours en débat. Et puis, non, il a repris la boutique de farce et attrape de ses deux frères, en fait.
Ah ouais?
Oui. Oui, parce que pff, là aussi, hein. Et donc, ce qui se passe, c'est que le fils Potter se dit « Bon, écoute, on va faire justice nous-mêmes, on va sauver Cédric Diggory en allant dans le passé, avec un retourneur de temps qui a été fabriqué par, visiblement, pas nécessairement des mange-morts, mais enfin d'anciens fans de Voldemort. En même temps, t'as la rumeur selon laquelle le fils de Malfoy, donc, avec qui le fils Potter team-up pour cette fantastique aventure, il y a la rumeur selon laquelle il serait, en fait, le fils de Voldemort. » Qui est une rumeur qui est infondée, en fait.
Ok.
Et t'as,
oui, parce que Voldemort n'a pas de pénis.
About that,
il a perdu
on va y revenir. On va y revenir. Attends, je vais te raconter le truc en entier. On va y revenir parce qu'en fait, c'est passionnant de conneries. Donc, il récupère un retourneur de temps par un cheminement, etc. Il team up également avec la cousine de Diggory, donc Delphi, qui est un petit peu elle qui prenait en charge le grand-père, le père Diggory, parce que forcément, 17 ans plus tard, il est un peu grabataire. Et donc, enfin maison de retraite, etc.
Oui.
Donc, ils récupèrent un retourneur de temps. Ils vont dans le 4e bouquin où il y a les 3 tâches pour faire en sorte que Diggory ne chope pas la coupe. Donc, ils essaient de le faire perdre aux différentes tâches.
D'accord.
À chaque fois qu'ils le font, ils altèrent le passé et le présent. Et une version alternative, c'est oh, finalement, Hermione est devenue prof. genre prof de défense contre les forces du mal ou une connerie dans le genre. Et elle ne s'est pas mariée avec Ron. Oh là là. Jingle triste de Family Feud. Et puis ils reviennent encore une fois dans le passé. Ils réessayent de modifier une autre tâche en se disant putain cette fois-ci ça va marcher. Ils découvrent que dans cette version alternative, tiens déjà un, le fils Potter n'existe plus. Deux, Harry Potter a été tué. Trois, en fait Voldemort a gagné.
Ah cool.
Et c'est le côté un petit peu, mais il y a encore une cellule de résistance. Et là tu vois l'équipe la plus improbable du monde, la cellule de résistance, c'est Rogue qui du coup a survécu, Ron et Hermione terrés dans une cahute à côté de Poudlard. Ok. Ils arrivent à retourner dans le temps et à réparer plus ou moins leur connerie. Plus ou moins parce qu'en fait on s'aperçoit que la fameuse Delphi Diggory n'est pas vraiment Delphi Diggory mais un mensonge total, et elle manipulait sous Impero le père Diggory pour pouvoir récupérer un retourneur de temps pour d'accord. pouvoir revenir avant les événements, non pas du premier bouquin mais avant la nuit fatale où Voldemort est allé tuer les parents d'Harry Potter, pour faire en sorte de le prévenir, pour faire en sorte que tout le cheminement de Voldemort perdre le pouvoir qu'il avait gagné à l'époque n'ait pas lieu. C'est complètement con, parce qu'ensuite on découvre, en fait, comment il s'appelle, Malfoy qui fait les amis, en fait, j'ai un autre retourneur de temps, donc pas grave, il n'y en a pas censé y avoir, bref.
Je pense que d'un seul coup, elle doit te paraître vachement meilleure la fanfic qu'on avait écrit,
oui,
avec ma pote.
Oui, absolument, absolument. Et ça se finit en mode, en fait, Delphi Diggory est en fait la fille de Voldemort, qu'elle aurait eu avec Bellatrix. Bon, c'est complètement
okay.
con. Inexplicable, et bref, okay. voilà, enfin, c'est genre Voldemort, il baise. Bon, ok. Parfait. Merci pour l'image mentale.
Le mec a pas de nez, comment il a un pénis?
C'est ça, c'est étrange. C'est étrange. Et pour finir, évidemment, ils arrivent à l'arrêter. Tout est bien qui finit bien, etc. Forcément. Mais c'est rempli de personnages intelligents qui font des trucs cons. C'est rempli de dilemmes de voyage dans le temps dignes de Retour vers le futur, ce qui n'est pas un putain de compliment. C'est rempli de mauvaises caractérisations de personnages, de flanderisation d'absolument tout l'univers.
C'est quoi déjà flanderisation ?
La flanderisation, c'est quand un personnage devient un seul trait caractéristique de lui-même.
Okay,
autrement
ouais.
dit, par exemple, dans les Simpsons, Ned Flanders est devenu exclusivement ce mec religieux.
Ok. Ouais.
Et il a perdu toute velléité de se fâcher de temps en temps ou des trucs comme ça. Il est juste devenu le bénin religieux.
D'accord.
Et donc la flanderisation, c'est des personnages simplifiés à ne plus en devenir eux-mêmes.
Ok.
Et c'est ridicule. Évidemment, les plot devices sont vus et revus et revomis du voyage dans le temps et de Polyjuice Potion, comment c'est déjà en français, la potion pour se transformer en quelqu'un d'autre.
Ah.
En anglais, c'est Polyjuice.
Polynectar.
Polynectar, voilà. C'est vraiment rempli de plot devices débiles, de plot holes abyssaux. On n'avait pas vu ça depuis le nouveau Jurassic Park. Puis Jurassic World, enfin c'est incroyablement mauvais. Et derrière, elle a sorti 3 EPUB sur Pottermore et ils sont très bien.
Ok.
Allez lire les 3 EPUB qui coûtent genre 3 balles chacun ou 4 balles chacun.
Et les EPUB sont sur quoi?
Ils sont sur Pottermore.com.
Ils parlent de quoi?
C'est des. Pour faire. Alors, ils sont tous écrits un petit peu différemment, mais c'est tous des. Un petit peu de récits et un petit peu de commentaires sur l'univers. C'est un petit peu de l'encyclopédie.
Ok.
Mais en beaucoup plus léger, c'est une 60aine de pages par EPUB, c'est très limité.
Ok.
Mais c'est chouette, et c'est bien écrit, et ça ne trahit pas la série parce que c'est l'auteur qui l'a écrit! Surprise!
Bah écoute, je n'ai pas le temps de lire ça pour des raisons évidentes, mais...
Voilà. En tant que millénial, évidemment, j'ai beaucoup à lire sur le sujet, ça c'est clair.
C'est marrant parce que c'est moi qui ai écrit une fanfic Harry Potter, et
oui.
pourtant je suis moins passionnée que toi par le sujet.
Ah, mais c'était extrêmement mauvais, c'est aussi pour ça. Hein. Mais je l'ai dit au moment où c'était sorti, je suis très fier d'avoir, comme les fans de Matrix, comme les fans de plein d'œuvres, l'épisode que j'aime pas et que je vais nier du canon.
D'accord.
Et en l'occurrence, c'est celui-là. C'est ce 8e bouquin
d'accord.
de merde.
D'accord.
Voilà.
Enfin, et c'est une pièce de théâtre en plus.
J.K. Rowling, pour histoire de booster un petit peu l'intérêt derrière la chose, disait c'est le 8e histoire. Non, c'est pas le 8e histoire. C'est un con qui a écrit un truc sur une nappe. et qui en a fait de l'argent. Voilà. Et j'ai rien avec les gens qui font de l'argent avec des œuvres, justement, mais ça, c'était juste de l'argent et c'était pas du talent. Au revoir, voilà.
Alors que notre fanfic, elle était vachement bien. Tiens, en parlant de taf, puisque
oui.
je suis très fière de moi parce que j'ai réussi à terminer un article que j'avais commencé, qu'on m'avait demandé en mai.
Mm-hmm.
Et je l'ai terminé, il est sorti, c'est sur Rick and Morty.
Ah.
Tu l'as peut-être vu passer, je l'ai tweeté plein de fois.
J'ai vu passer ton tweet disant que tu l'avais fini.
Ok, mais t'as pas vu passer l'article ?
Non.
Ok.
J'ai extrêmement limité mon utilisation de Twitter pour plein de raisons, dont la première
D'accord.
est ma santé mentale, et la plupart des choses que je regarde maintenant, c'est les mentions et les DM, plus que
D'accord.
le flux.
Bon bah, je t'enverrai mon
Désolé.
Article sur Rick and Morty,
mm-hmm.
parce que je fais du prosélytisme et que
oui.
j'ai envie d'être lu.
Oui.
Non, et que, ouais, et que j'ai réussi à le terminer alors que enfin j'étais bloquée dessus depuis ben, des mois, littéralement,
je
depuis
ça,
mai.
Je trouve ça très courageux, et je dis ça sincèrement, de pas avoir trouvé la solution feignante de dire bon je vais juste le terminer à l'arrache et d'avoir dit je veux terminer le papier correctement.
Ouais non mais
et vraiment hein, parce que t'as plein de pigistes qui feraient pas ça.
Non bah mais tous mes textes j'ai envie de pas avoir à en rougir quoi.
Mm-hmm.
Et là
tout à ton honneur.
Enfin vu les réactions j'ai fait quelque chose de qualité.
Yay.
Wake up to me. So
il y a un autre truc que je voulais évoquer ce soir, un dernier truc que je voulais évoquer ce soir, et je squeeze volontairement un de mes sujets parce que je sens qu'il va prendre du temps celui-ci, et c'est la question de la campagne présidentielle américaine.
Ouais.
Pourquoi est-ce que ça m'intéresse ? Les auditeurs fidèles de cette émission sauront que je suis étudiant en sciences politiques, que je m'intéresse en
Même
général...
Même moi, je ne savais pas.
Que je, en général, je m'intéresse à l'actualité en général et à l'actualité politique très souvent. C'est quelque chose qui m'intéresse aux élections, et encore plus d'ailleurs, parce que c'est un processus qui j'ai pas d'autre mot que m'intéresse, voilà.
Ouais.
Voire qui me passionne, effectivement. Et bon, vous n'avez pas dû passer à côté. La campagne américaine cette année est très spéciale. Puisque d'un côté, on a une candidate, la candidate démocrate, qui est extrêmement convenue, qui est extrêmement proche, on va dire, des appareils politiques. Il s'agit d'Hillary Clinton, qui est dans le biz depuis un bon moment, qui est passée par la Maison-Blanche en tant que première dame il y a de cela une vingtaine d'années. Et pour le coup, même si elle n'est clairement pas appréciée de tous les Américains, on va dire que c'est une candidate plutôt traditionnelle. De l'autre côté, on a une catastrophe ambulante, au lourd passé...
Un épouvantail.
Au programme politique absolument effarant, même si évidemment c'était en partie hérité de la part du parti politique qui le soutient principalement, le parti républicain, mais enfin il y a quand même des petites spécificités d'aberrance bien à lui dans son programme et dans son discours.
Genre quoi, par exemple?
Oh bah l'histoire spécifique, enfin l'histoire du mur, l'histoire du ban on Muslim.
J'avais oublié.
L'histoire du complete ban and shutdown on Muslim immigration. L'histoire, y en a plein, hein, des trucs comme ça qui sont vraiment qui sont globalement, on va y venir, qui sont globalement dans la même continuité que la plateforme républicaine, mais qui vont une étape plus loin. Et très souvent, c'est l'étape de trop.
C'est le moment qui jump the shark, en fait.
C'est ça. Mais là, vraiment, avec ce qui s'est passé hier soir, enfin dans la nuit d'hier à aujourd'hui, au moment où on enregistre cette émission, donc sachant qu'on est le 7 ou le 8, on est le 8 octobre et que l'élection présidentielle est à peu près dans un mois, quasiment jour pour jour.
Elle est combien ?
Enfin, il y a 4 ans, elle était un 8 novembre, je sais plus si c'est tous les 8 novembre ou si c'est un jour parti, je crois que c'est un jour parti, elle est début novembre.
D'accord.
Début novembre. Et pour le coup, comment dire, ce qui est sorti.
Même
pendant
Laurent Saïm jette l'éponge.
Ce qui est sorti pendant la nuit, bon, alors, on a dû jeter de l'éponge depuis longtemps. Ce qui est... Tout le monde a dû jeter l'éponge depuis longtemps. Enfin, d'une certaine manière, tout le monde a jeté l'éponge depuis longtemps. Le problème du jour, entre guillemets, mais qui est également un problème extrêmement plus large dans la course de sa campagne, c'est donc une archive audio d'un moment où il avait un micro sur lui. Il n'était pas, pas directement dans une émission, mais il était préenregistré, parce que c'est comme ça que les choses fonctionnent quand tu fais, quand on te met un micro et quand une équipe sonore se met à préparer pour une émission. C'est qu'on préfère avoir enregistré un peu trop que pas assez de l'émission et devoir refaire des trucs. Enregistre donc une conversation en effet privée avec un animateur télé également de mauvais goût d'ailleurs, pour All Access Hollywood, je crois que c'était le nom de l'émission, et pour le coup où il admet comment dire, embrasser des femmes sans leur consentement, chasser des femmes, enfin chasser, tenter de séduire des femmes qui sont
mariées. Je crois que
mariées,
chasser est le mot approprié.
Et dans son cas, effectivement. Et puis également de dire que quand on est une célébrité, on peut tout faire, donc, y compris en termes de drague et sexuellement. Et il complète ça par, en gros, je les attrape par les parties génitales.
Ouais.
Grab them by the pussy, pour citer l'exacte déclaration verbatim. Et pour le coup, ça... Cette déclaration-là, évidemment, cet enregistrement-là qui est sorti, mais de manière générale, le séisme politique qu'il y a autour de ça, c'est pour, enfin, je trouve ça très important. C'est quelque chose qui développe un espèce d'état de très grand intérêt. Cette espèce de crise où tu sens que tout peut t'arriver, parce qu'en gros, tu as le candidat à la vice-présidence qui va pas se rendre en campagne avec lui sur la prochaine étape. Tu as la plupart des pontes républicains qui, pour une raison obscure, trouvent que cette fois-ci, c'est le coup de trop. Alors, très
ouais,
bien qu'ils le remarquent. Hein.
Voilà, c'est très bien qu'ils le remarquent, mais maintenant, vraiment, genre... Ah.
Parce que les allégations de viol concernant Donald Trump, c'est pas si récent que ça.
Non.
Enfin... C'est on arrive à un point où sur une des plus grandes puissances mondiales, on a ce candidat où visiblement ils peuvent pas s'en débarrasser. Institutionnellement, ça devient extrêmement compliqué. La seule solution, ce serait non pas que lui quitte son propre ticket, mais que tous les autres le quittent, c'est-à-dire que son vice-président et que la plupart de son staff et que le soutien du Parti républicain se défassent. C'est aujourd'hui la seule chose qui peut arriver, parce qu'évidemment les votes à distance ont déjà commencé.
Ouais.
Donc techniquement, le bulletin Trump existe. On peut pas, il peut pas ne plus être sur une liste. Mmh. Trump lui-même ne peut pas arrêter de recevoir des votes, même s'il le voulait. Et je peux te garantir avec les déclarations qu'il vient de le faire, qu'il n'entend absolument pas quitter la course à la Maison Blanche. Comment dire ? Et ce qui est le plus fou de tout, et ce qui est le plus, on va dire. Ce qui donne...
T'as vu le tweet de Trump à ce sujet ?
Non, j'ai vu mieux, j'ai vu la déclaration vidéo qu'il a fait après. La déclaration vidéo, vont se poser en cacahuète, elle est droit tirée d'un épisode de Black Mirror. Sérieusement, tu as ce candidat qui, évidemment, fait depuis très longtemps, et son camp fait jouer les fausses équivalences entre lui et Hillary Clinton sur les scandales qui peuvent les toucher, sur les gaffes qu'ils ont pu commettre, que ce soit par le passé ou lors de la campagne. Et tu as ce candidat qui dit je m'excuse d'avoir je m'excuse si jamais ça vous a choqué, ce qui est déjà, comment dire, la pire non-excuse possible.
C'est clair.
Pour commencer, et puis deuxièmement, qui va dire on en reparlera au débat, je vais relever notamment la question de Bill Clinton et de Hillary Clinton. Le mec, je veux dire, et même Bill Clinton serait la pire pourriture du monde.
Ouais.
Je veux dire, c'est pas non plus impossible, c'est pas improbable, c'est pas vérifié, mais c'est pas improbable. Et contrairement, en parenthèse, à Trump, on n'a pas entendu Clinton dire des trucs pareils. C'est déjà un début. Parce que bon, s'il est question de tromper sa femme, j'ai l'impression que les deux sont déjà bien lancés.
Ouais.
Donc, pas vraiment de concours à faire. D'avoir cette espèce de menace droit dans les yeux, froide, de on va en reparler au débat, comme si en gros il allait venir avec une ceinture d'explosifs et juste faire péter la scène.
Ce qui est toujours une probabilité avec Trump.
C'est glaçant et terrifiant, honnêtement. Et d'avoir également entendu qu'il aurait presque voulu interrompre et intervenir lors du débat des vice-présidents. T'as vraiment l'impression qu'un truc ne va pas. Pas dans la mécanique de l'élection présidentielle, t'as vraiment l'impression, dans le mauvais sens du terme, que le système peut se péter la gueule à cause de ce gros con, mais pas la mauvaise part du système, la bonne part du système, la part qui crée de la stabilité politique, la part qui permet de faire en sorte qu'il n'y ait pas de coup d'État, ou ce genre de choses. Ça crée une atmosphère, d'abord dans les médias, mais ça va vite la créer dans le monde politique, et même de manière générale, une atmosphère vraiment d'énorme incertitude, avec un mec qui est juste... Il n'a pas une chance sur deux d'être président, et Dieu merci, les dernières projections de sondage montrent que l'écart se creuse à fond, il est à 6 points de pourcent en dessous, on recommence un peu à respirer de ce côté-là en ce qui concerne le vote, mais c'est juste extrêmement flippant, et pour moi, ça crée une sorte de mélange, de fascination, je peux pas m'empêcher de très régulièrement voir ce qui se passe avec ça, parce que j'ai vraiment l'impression d'être au centre... de pouvoir assister à quelque chose d'historique politiquement.
Ouais.
Et pour de très mauvaises raisons.
Ouais.
Mais on voit vraiment comment est-ce que le système peut tenter d'aveuglément faire confiance à un candidat qui est juste humainement détestable, voire criminel, voire énormément de choses qui, encore une fois... Et de l'autre côté, Hillary Clinton, à qui on veut faire porter plein de chapeaux, mais pour autant, ce qu'elle a fait, même si, honnêtement, elle s'est pas comportée de la meilleure manière du monde, et même si c'était clairement pas ma candidate préférée chez les démocrates, je vis très décemment avec l'idée d'une présidence Clinton.
Oui, moi aussi. Bon, on n'est pas les plus directement concernés, mais moi aussi...
On se sentira très vite concerné si jamais c'est l'autre qui passe président.
Voilà,
parce que sur la politique internationale et sur le bal des nations, je veux dire...
Non, oui, ça fait très peur, l'idée qu'il puisse devenir président, c'est flippant, quoi. Mm-hmm. C'est suited pour Halloween.
C'est vrai qu'il y a une certaine convergence des dates, mais... Non, enfin, c'est... Ça a quelque chose pour moi vraiment d'obsédant qui a pas encore... Et je me souviens du même sentiment que j'avais, mais beaucoup plus jeune, que j'avais eu en 2002, lorsque Le Pen était passé au second tour de l'élection présidentielle, même si pour le coup c'était pas du tout la même configuration, que le climat politique était beaucoup plus mûr pour une élection facile de n'importe qui sauf Le Pen. Et en l'occurrence, ça a effectivement été n'importe qui a été élu, ou plutôt réélu dans le cas présent. C'est vraiment cette situation d'urgence, de presque instabilité dans le statu quo qui fait que j'ai une curiosité accrue, que je vais fébrilement aller revoir un petit peu à la fois les commentaires, aller voir les chaînes de télé en direct. Enfin, c'est ce genre de situation là qui sont
le premier débat, tu l'as regardé en direct?
Je l'ai pas regardé en direct. Non, ce que j'avais regardé en direct régulièrement, et aussi parce que ça collait bien avec les heures, c'était la convention républicaine puis ensuite la convention démocrate.
Okay.
Ce que j'avais jamais vu en fait, d'ailleurs.
D'accord,
j'en ai
jamais
vu. Et c'est souvent très chiant. Mais c'est souvent également intéressant, c'est aussi pour ça qu'il vaut mieux regarder des best-of ou des résumés journalistiques de la question. Mais enfin voilà, c'est une situation, et je j'ai pas insisté, t'as complètement accueilli favorablement l'idée qu'on en parle ce soir, mais vraiment je voulais en parler aujourd'hui parce qu'on est à un moment de tension.
Bah, ça me paraît tout à fait, c'est clair parce
et
que
et d'incertitude parce qu'on sait vraiment, on est à un point où on ne sait pas où ça va aller.
C'est clair, c'est clair.
Et le ticket pourrait voler en éclats.
J'en parlais aujourd'hui avec quelqu'un mm-hmm. que je connais aux États-Unis. Et il m'a dit qu'il ne comptait pas voter pour Hillary Clinton, mais mm-hmm. qu'il ne comptait pas voter pour Trump, qu'il voulait voter pour Gary Johnson ou un truc du genre.
Ah, d'accord. Gary Johnson, qui est donc le candidat libertarien. Il faut savoir qu'il y a Gary Johnson et qu'il y a Jill Stein, qui est la candidate écologiste également. C'est les quatre plus gros candidats avec Trump et Hillary.
Ouais.
Et Trump et Clinton. Fausse équivalence, les prénoms des femmes, désolé.
Il m'a dit que donc il voulait vraiment pas voter pour Hillary, notamment parce que elle s'était pas prononcée sur les violences aux femmes qu'avait pu faire son mari et qu'il trouvait ça hypocrite. Mais je suis pas forcément d'accord avec ça. Mais c'est vrai que quand il m'a dit qu'il comptait pas voter pour Hillary Clinton, je me suis dit, putain, il y aurait vraiment une possibilité que ce soit Trump qui passe parce qu'il y a des gens qui voient pas le danger qu'il représente.
Et c'est pour ça qu'actuellement, t'as 6 à 8% d'intention de vote pour Gary Johnson.
Ouais.
Mais réfléchis dans le sens, la plupart des gens qui vont voter Gary Johnson, c'est des gens qui auraient voté républicain.
Ouais.
Parce que, quoi qu'on en dise, la famille républicaine et la famille... D'ailleurs, Gary Johnson est un ancien républicain, just saying. En parenthèse, Dieu merci pour Gary Johnson, parce que sinon, s'il n'y avait pas de candidat libertarien crédible, et je mets ça en très gros guillemets parce qu'il n'est pas si crédible que ça, notamment sur la question de la scène internationale, heureusement qu'il est là, sinon... Bah, Trump aurait récupéré une partie des intentions de vote. D'une manière ou d'une autre, ou alors... Voilà, enfin, c'est une question de mobilisation.
Non, cette personne m'a dit que s'il n'y avait pas eu Gary Johnson,
il aurait voté Clinton,
ouais.
Ouais, bon. Mais,
donc ça prouve qu'il y en a quand même certains qui sont sane.
C'est un certain nombre d'occurrences. Je pense que la majorité des gens qui vont voter Johnson sont des républicains ou des conservateurs, de manière générale.
Oui, les libertariens, en
l'occurrence. Qui sont... ou des libertariens purs, et dans ce cas-là, tant mieux. Mais qui sont... Enfin, tant mieux pour eux, après, tant mieux, tant pis. Chacun a son opinion politique.
Ouais.
Mais, enfin, voilà. Ça va vraiment au-delà du clivage. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit... des gens dire Mike Pence devrait prendre la tête du ticket. Mike Pence, c'est un mec ultra conservateur, c'est un mec qui croit dans la reconversion des homosexuels une prise en charge médicale,
oh,
on va dire. Pas forcément des drogues, mais en tout cas vraiment du redressement ou ce genre de choses.
Ouais.
C'est un mec qui a fait passer, je crois, sauf erreur, qui a fait passer du... Non, ces fameux principes où en gros, si t'es un commerçant, tu peux refuser de servir un homosexuel.
Ouais.
Enfin, c'est le mec le plus adorable du monde. Et tu vois qu'en comparaison, que ce soit chez les conservateurs ou même chez les libéraux, t'as cette idée que même lui... simplement pour des raisons de stabilité du pays, vaudrait mieux.
Ouais.
Parce que c'est un politicien expérimenté qui, comment dire, au-delà d'être un politicien expérimenté, c'est pas un mec complètement taré.
Ouais.
À ce point-là. Donc, c'est vraiment un grand moment d'incertitude et j'espère qu'on pourra réécouter cet épisode après l'élection présidentielle en soufflant un peu.
Ouais, je pense que ce sera le cas.
Drink up, baby, stay up all night with the things you could do. You won't, but you might. The potential you'll be that you'll never see. The promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about the pressure of days. Do what I say. I'll make you okay and drive them away. The image is stuck in your head. People, you've been before that you don't want around anymore. That push and shove and won't bend to your will.
Alors, je pense que ça va un peu avec le fait de... c'est très bien qu'on enchaîne ces deux sujets parce que ce n'est pas lié, mais ça fait écho. J'ai des gros problèmes de sommeil dernièrement. À savoir que j'ai beaucoup de boulot, donc je fais des nuits courtes. Mmh. Surtout que je suis très stressée. Je suis vraiment atrocement stressée. J'en mange plus, j'ai des nausées tout le temps, je suis stressée, mais vraiment à bloc. Du coup, j'ai des problèmes de sommeil aussi. À savoir que sur des nuits de... Quand j'ai de la chance, 7 heures, je me réveille 5 à 6 fois, voire 7 par nuit. Mmh. Et c'est vraiment très très pesant de se réveiller tant de fois en une seule nuit. C'est très perturbant, j'ai l'impression de pas dormir du tout, du coup, vu que je fais que des micros, j'ai l'impression de faire des micro-siestes et c'est tout. Et c'est très dur de se rendormir une fois que tu te réveilles à, je sais pas moi, une fois que tu t'es réveillé à 23h, 1h, et que tu te réveilles encore à 3h du mat, et qu'à chaque fois ça t'a pris une demi-heure pour te rendormir, c'est très très pesant, et t'es là, putain, pourquoi mon corps ne peut pas fonctionner normalement un peu. Tu m'as dit que t'avais aussi des problèmes un peu de sommeil, non ?
Non, des problèmes de sommeil, non, c'était je réagissais beaucoup plus à... Non, je dors un peu moins que je devrais, mais c'est pas un gros problème. Okay. Parce que j'ai des... Justement, et ça rentre dans ce que je disais au début quand je disais que ça va s'arranger, j'ai pas un calendrier si lourd que ça. Ça va. Je veux dire, j'ai des trucs à faire.
Ouais.
Je suis quelqu'un d'occupé, mais je suis pas quelqu'un de trop occupé. Là, c'est juste parce que je suis à la fois occupé et que c'est une période un petit peu de mise en place un petit peu du nouveau calendrier et des nouveaux horaires. Ben derrière ça, non, j'ai parfaitement le temps de me reposer un petit peu. Donc même si j'ai un petit peu sommeil, peut-être à certains points de la journée, j'ai également d'autres moments où je peux me poser un petit peu, lire un peu, regarder un truc, etc. Et donc du coup, ça me permet de compenser, de pas avoir trop d'énergie à fournir dans la journée. Donc ça s'équilibre. C'est pas un grave problème. Même si là, j'essaie d'un petit peu de faire gaffe et de pas me coucher trop tard.
C'est bien. Moi aussi, j'essaie de pas me coucher trop tard. J'essaie de me coucher, mais c'est peut-être pour ça que je me réveille autant, parce que j'essaie de me coucher à 22h, 23h. Peut-être que c'est ça qui me réussit pas et que je devrais juste me coucher à 1h du mat et que je dormirais mes 8h sans problème.
J'essaye de dormir avant minuit et pour l'instant ça marche pas très bien, mais on va continuer d'essayer.
Bah moi, tu sais, je prends des médicaments qui m'assomment, donc et c'est ça le plus impressionnant avec le fait que je me réveille 6 fois par nuit, c'est que je prends des putains de d'antipsychotiques qui devraient m'assommer pendant 8 heures et qui habituellement m'assommaient pendant 8 heures et là je me réveille quand même malgré tout. Et du coup, c'est là, je suis là, vraiment, je sais pas ce qu'il faut avec mon corps maintenant, mais il faut vraiment qu'il se remette à fonctionner un peu plus normalement, parce que sinon, je vais pas tenir jusqu'à Noël. You must die. I alone am best.
I hope you die.
Getting to know you. Deux personnes, une conversation et zéro fil rouge.
Philippe, je sais où tu te caches.
Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien fait ce film. Je me demande bien comment ils peuvent faire ça.
Eh dis donc, Giboite, si tu veux tout savoir, écoute, y a plus de péloche. Y a tout sur Cinoche et le monde de l'audiovisuel, avec des super chroniques, des super discussions. Et des super invités, Giboite.
Oh là là, Emmaël, où est-ce qu'on peut entendre ça?
Une fois par mois sur Radio Kawa, Giboite.
Allez Marcel, au studio.
Y a plus de péloche, le podcast sur le monde de l'audiovisuel.
Présenté par Maël et Giboite.
Une fois par mois
sur Radio Kawa.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
On est les démons du midi, tous les mois sur Radio Kawa.
Bien.
Segment titre potentiel.
Oh là oui, qu'est-ce que... Tu as des choses?
J'ai des choses, oui.
Oh là là.
Alors, segment titre potentiel, segment oui. Titre potentiel.
Piu piu.
Piu piu. Premier titre, c'est de la merde. Deuxième titre, parce que Voldemort n'a pas de pénis. Troisième titre, Voldemort a gagné.
Avec la conversation, ça te rend pas prêt.
C'est exactement ça. Titre 4, Voldemort il baise. Titre 5, quelque chose de qualité. Titre 6, grab them by the pussy. Et titre 7, je vais pas tenir jusqu'à Noël.
J'hésite entre les deux sur Voldemort.
Il y en a 3 sur Voldemort.
Les deux dernières.
D'accord.
C'était lesquelles, rappelle-moi.
Ouais. Voldemort a gagné et Voldemort il baise.
Est-ce que je vous proposais de choisir entre ces deux-là?
Voldemort a gagné.
Je note.